Session de théologie par le Père Philippe à Saint-Jodard, le 26 août 1991.
Je veux d'abord vous saluer, vous dire la joie qu'on aura, j'espère bien, ensemble, dans cette recherche de la vérité. Il faut tout de suite demander à l'Esprit Saint de nous aider. Chaque fois qu'on fait de la théologie, on doit demander à l'Esprit Saint de nous aider. Parce que la théologie vient d'en haut. Même si aujourd'hui, certains prétendent qu'elle vient d'en bas. Je crois qu'il faut maintenir ce que Jésus dit à Nicodème. Ne l'oubliez jamais. C'est la grande leçon de théologie. Saint Jean, au début, si vous voulez la référence exacte, c'est facile de la trouver. Je ne sais pas par cœur, moi. Mais c'est très facile, c'est le début de l'évangile de Saint Jean. C'est Jésus qui, pour la première fois, monte à Jérusalem. Et à Jérusalem, il corrige les vendeurs du temple. Il corrige aussi le docteur en Israël. Il vient de trouver. Nicodème, chapitre 3. Et Jésus n'hésite pas de dire à Nicodème que la grande confusion selon la chair et le sang, et la naissance de l'esprit et de l'eau. Mais je crois que aujourd'hui, ce texte est très important, parce que je crois que Jésus ferait la même correction à beaucoup de théologiens d'aujourd'hui. Alors, comme c'est une session de théologie, il faut nous mettre dans un axe qui soit vrai, selon l'évangile de Saint Jean. Selon la grande tradition de l'Église. Parce que c'est tout nouveau, si vous voulez, ce qui se passe maintenant, depuis 50 ans. C'est quand même nouveau pour l'Église. Il y a toujours eu des petites erreurs au XIVe siècle, entre autres. C'est un siècle très mouvementé, le XIVe siècle. Après la grande montée jusqu'au XIIe et XIIIe, fléchissement. Alors, il y a toujours eu des moments difficiles. Mais ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que ce moment difficile est généralisé. Constamment. Puisqu'on arrive à cette chose extrêmement curieuse. Des théologiens qui s'assemblent pour écrire des lettres au pape de mauvaise humeur. Parce que ce sont des lettres de mauvaise humeur. C'est pas intelligent. Je regrette de dire ça. Mais c'est pas intelligent. C'est des lettres de mauvaise humeur. Vous savez, comme les murmures. Il y a des murmures dans les communautés. Saint Benoît le dit. Donc ça existait de son temps. Et c'était le début de la vie monastique. Il y a des murmures. on a une mauvaise humeur, qu'on n'arrive pas à assimiler, alors on vous sert de très beaux plats devant vous. Vous avez mal au foie, vous avez mal à l'estomac, alors vous murmurez, vous rejetez tout ça. Alors quelques mots pour que nous voyons bien l'esprit dans lequel nous faisons cette recherche assez particulière. Je vais essayer de vous l'expliquer. Donc, dans l'Église, la théologie est née très vite. Il y a quelqu'un dans le fond, je ne vois pas c'est qui fait la part d'importance, qui est debout, il y a une place ici. Mais les derniers seront les premiers, c'est très évangélique, puisqu'on se met dans une perspective évangélique. Parce que j'aime pas de voir quelqu'un debout alors que je suis assis. La théologie est née très vite dans l'Église. C'est un fait. Vous voyez dans le dictionnaire de théologie catholique, l'article théologie. Cet article est très intéressant au point de vue de l'histoire de la théologie. C'est intéressant. Vous n'allez pas le lire ici. Hein. Parce que c'est très gros et vous passerez tout votre temps à ça. Mais il faut savoir que ça existe. Il y a dans l'histoire de l'Église l'histoire de la théologie. Et la théologie, elle est née sous ce fait qu'on a découvert dans l'Écriture des textes qui affirmaient des choses et d'autres textes qui semblaient les nier. C'est vrai. Jésus dit, quand on vous frappe sur la joue droite, offrez la joue gauche. Or, quand Jésus est devant les grands prêtres, après avoir reçu une gifle du serviteur du grand prêtre, Jésus ne présente pas son autre joue. Il l'interroge, pourquoi me frappes-tu ? Ça semble contradictoire. Or, Jésus vit ce qu'il enseigne. Je ne peux pas mettre ça en doute. Alors comment se fait-il qu'il ne vit pas ce qu'il enseigne ? Jésus, quand on le proclame au roi, après chapitre 6 dans Saint Jean, s'en va tout seul dans la montagne. Dernière semaine, l'entrée triomphale de Jésus, le peuple qui proclame roi. Pourquoi ces deux conduites ? Au chapitre 7, je prends exprès quelques lieux comme ça. Au chapitre 7, Jésus dit à ses apôtres qu'il ne montera pas la fête. Et il monte en cachette. Et constamment, vous trouvez dans l'Écriture des lieux qui, apparemment, sont contradictoires. Dans l'Ancien Testament, constamment, Jésus, Dieu, dit à Abraham qu'il aura une postérité extraordinaire. Et quand le petit Isaac a 12 ans, il lui demande de l'offrir sur le mont Moïra. Dieu semble contradictoire. Et je suis sûr que vous avez tous dans la tête des choses particulières, les deux récits sur la création. Un premier récit où il semble que Dieu crée en même temps simultanément l'homme et la femme. Second récit, pas du tout comme ça. Il laisse l'homme en quarantaine pour qu'il ait soupé de la solitude et pour qu'il puisse accueillir son épouse. C'est un bon truc, hein. Faut jamais oublier ça, hein, dans la spiritualité des ménages. De temps en temps, une petite séparation. Va, va, va. un petit voyage, et puis tu reviendras après, et puis merveilleux, tu reprends après. Tu as fait ça. Pas commode la vie commune, hein. Pas commode. Constamment. Alors les pères de l'Église ont réfléchi là-dessus. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit la parole de Dieu, c'est comme un silex. Vous frappez un silex sur un silex. D'où jaillit la lumière. Vous voyez ces paroles de Dieu qui semblent contradictoires, vous les frappez l'une sur l'autre, et de là jaillit la lumière. Voilà la théologie qui naît. C'est très beau, j'aime beaucoup cet exemple. Tout le monde peut comprendre ça. La théologie naît à partir de la parole de Dieu qu'on médite. La théologie, c'est une grande méditation sur la parole de Dieu. Une méditation qui peut prendre des modalités très différentes. Une méditation quelquefois historique. Une méditation artistique. Je vois, par exemple, toutes les annonciations. Si je suis un peu artiste, j'aurai premier tableau, première annonciation. Abraham qui se repose. Sarah à la cuisine. C'est toujours comme ça que ça se passe. Après les repas, les hommes font la sieste. Et les femmes sont à la cuisine pour tout nettoyer. Et puis arrivent trois jeunes gens. Magnifiques, qui sont au-dessus de la cuisine et de la sieste. Ils viennent. Puis vous avez l'annonciation faite à Marie. Et entre deux, des quantités d'autres annonciations. Une fois que vous lisez toute l'écriture, relevez toutes les annonciations. C'est magnifique. Si vous êtes un tout petit peu artistique, un petit peu artiste, vous voyez que chaque fois c'est différent. Tout ça, c'est pour mieux comprendre le mystère de l'Annonciation. Dieu a préparé pendant 2000 ans l'Annonciation. Et vous croyez que vous allez lire tout de suite et vous allez la comprendre. Ah, pas du tout. Prenez les 2000 ans et regardez toutes ces... Voyez comment est née cette méditation à travers toute l'écriture. Il y a des fils conducteurs. Saint Augustin, qui est quand même le grand théologien latin, africain. Saint Augustin dit que toute la révélation, c'est une musique divine. Très artiste, Saint Augustin. Une musique divine. Un orchestre étonnant. Familial. L'Esprit Saint, c'est celui qui commande cet orchestre. Chef d'orchestre. Et se sert d'une quantité d'instruments multiples. Des petites flûtes. La grosse caisse. Comme aujourd'hui, il y a de nouveaux instruments et des orchestres super jazz tout à fait particuliers. L'Esprit Saint gouverne même ça. Parce que l'écriture, telle variété. Le dernier instrument qui s'est servi, c'est Jean. L'ami auquel on peut tout demander. Le super jazz. Et on peut tout demander. C'est très très beau de voir l'écriture comme ça. Et Saint Augustin dit, en théologien, il y a des leitmotifs qu'il faut saisir. Il y a un grand leitmotif dans l'écriture. Lequel? Est-ce que c'est la femme? Est-ce que c'est l'homme? Quel est le grand leitmotif de l'écriture? Est-ce que c'est le feu? que c'est le pain? Est-ce que c'est le vin? Est-ce que c'est le soufre? Est-ce que c'est la terre? Et des grands leitmotifs. Et la théologie s'est intéressée à ces leitmotifs. Il continue de s'intéresser à ça. À partir de là est née la théologie. L'Église considère qu'il y a diverses manières d'être théologien. Et c'est vrai. Il y a diverses manières d'être théologien. Tertullien n'est pas du tout théologien comme Augustin. Albert le Grand est théologien très différemment de Thomas d'Aquin. Et Thomas d'Aquin est théologien d'une façon tout à fait différente de Hans Kölner. C'est peut-être le super jazz, hein, là. Avec des fausses notes. Ça arrive, il y a des fausses notes. Et alors quand les fausses notes sont trop fréquentes, l'Église dit, je vous retire le titre de théologien. C'est très rare que l'Église a fait ça, mais elle l'a fait. Parce que c'est quand même l'Esprit Saint qui dirige. Et elle a le droit de faire ça. Alors si on est théologien dans une faculté théologique, on passe de la faculté de théologien à la faculté de philosophie pour devenir un mauvais philosophe. Ça arrive, mais ce soir aujourd'hui encore. Alors, qu'est-ce que c'est que la théologie? L'Église reconnaît que Thomas d'Aquin, je dis l'Église, et le théologien commun. Et quand l'Église dit ça, l'Église reconnaît que c'est le théologien le plus sûr et le plus pénétrant. Il n'y a pas que l'Église qui reconnaît ça. Je vous cite simplement ici quelqu'un qu'on ne discute pas dans l'Église catholique, parce qu'il est un grand théologien luthérien. L'Église catholique discute tous ses théologiens, mais pas les théologiens luthériens. Ça, analysez ça comme vous voulez, c'est ma fête. Karl Barth est un grand théologien luthérien. Très grand. Il est mort. Il a écrit quand même pas mal de choses. Il a attiré l'attention d'une quantité de théologiens catholiques. Le cardinal Amer, qui est préfet de la Congrégation des religieux, a fait sa thèse à Fribourg. Sur Karl Barth. Il est devenu cardinal. Pas à cause de ça, mais c'est quand même quelque chose sur le parcours. Je vous cite ça exprès, ça fait des anecdotes. Karl Barth dit ceci, le plus grand théologien luthérien, c'est Hegel. Aucun théologien luthérien n'a parlé avec autant de force et de pénétration que Hegel. C'est intéressant parce que Hegel est à la mode. Parmi les théologiens catholiques. On fait des sessions théologiques sur Hegel. Nous ne ferons pas une session théologique sur Hegel. Je vous le dis tout de suite, hein. Parce que s'il y en avait qui venaient pour ça, peut-être ils vont peut-être mieux partir tout de suite, hein, parce qu'ils ne seraient pas satisfaits. Je comprends très bien qu'Hegel est très intéressant. Ça m'intéresse beaucoup. mais un théologien catholique. Il le sait, il est luthérien. Je suis luthérien, dit-il. C'est intéressant de voir Karl Barth reconnaître que le plus grand théologien sur la très sainte Trinité dans le luthéranisme, c'est Hegel. Et Karl Barth dit peut-être que Thomas d'Aquin a été plus loin que lui. C'est un luthérien qui salue Thomas d'Aquin. Je n'ai pas vu sur la plume de beaucoup de théologiens d'aujourd'hui qui sont hegeliens dire la même chose. C'est pour ça que je vous rappelle ça, c'est intéressant. L'Église, même avec Vatican II, reconnaît que Thomas d'Aquin reste le grand théologien. Mais l'Église ne nous force pas d'être disciples de Thomas d'Aquin, heureusement du reste. On peut être théologien d'une autre manière. Et aujourd'hui, d'une quantité de manières. Mais je crois, personnellement, que Thomas d'Aquin a creusé un aspect de la théologie auquel on n'a pas été plus loin. Et au fond, c'est ce que quelqu'un comme Karl Barth reconnaît. C'est la rigueur de l'intelligence au service de la foi. Dans un monde où la confusion plane tout le temps, tout le temps, tout le temps. On est le monde de la confusion aujourd'hui. C'est pour ça que je crois qu'on vit un peu la tour de Babel. La confusion, je dirais que quelquefois elle est cherchée pour elle-même. On parle exprès un langage confus pour paraître intelligent. Ça existe. Et on sait que personne ne vous comprendra. On a le pouvoir de rester dans une forteresse et on jette de la poix. Et c'est la confusion. Parce que la poix est noire. On jette ça sur tous ceux qui veulent pénétrer dans la forteresse. L'Église reconnaît que Thomas d'Aquin est le théologien le plus sûr, le plus fidèle. C'est une des qualités du serviteur. Le théologien est serviteur de l'Église. Le philosophe recherche la vérité pour lui et pour les hommes, à partir de son expérience. Le théologien est serviteur de l'Église. C'est pour ça qu'il faut quand même toujours distinguer le théologien catholique et le théologien luthérien. Parce que le théologien luthérien, il est serviteur de son Église, à partir de Luther. Et avant la séparation avec les pères de l'Église. Même Saint Thomas est avant la séparation. Et donc, les luthériens et les calvinistes sont obligés d'accepter Thomas d'Aquin. Et je connais des luthériens et des calvinistes qui aiment énormément Thomas d'Aquin. J'ai vu, c'était à Lausanne, cette chose assez curieuse et amusante. Un pasteur, un jeune pasteur, qui a présenté pour son examen, puisque être pasteur exige de passer un examen. Il n'y a pas de sacrement. C'est un examen qu'on passe. Et on a le droit de prendre n'importe quel grand théologien avant la séparation. Après la séparation, interdit du cru. Et avant, il n'y a pas de séparation. Il avait pris comme livre pour qu'on l'interroge. Il me l'avait dit du reste. Il m'avait dit, je te rejoins un très bon tour. Je vais prendre comme livre d'examen le commentaire de Thomas d'Aquin sur l'évangile de Saint Jean. Ils ne peuvent pas me refuser. Et je sais que personne ne le connaît. Et donc, je serai un borgne au milieu d'aveugles. Il l'a fait, c'est bien bon. On ne peut rien dire. Ça faisait partie de... des constitutions, si vous voulez. Ou du règlement pour passer un examen. Comme pasteur. Alors, la théologie, c'est être serviteur de l'Église dans la recherche de la vérité révélée. On met son intelligence humaine au service de la parole de Dieu. On est théologien si on met son intelligence au service de la parole de Dieu. Si on est donc artiste à la manière de Frangelico, on met son intelligence d'artiste au service de la parole de Dieu. On est un théologien. Si on est un grand musicien, on met son art au service de la parole de Dieu. On est un théologien. Alors l'Église dira, l'Église catholique, dira, votre service est bon. L'Église pourra dire, votre service est mauvais. Vous n'êtes pas un théologien de l'Église catholique. Parce que l'Église catholique garde le droit, puisqu'il y a le magistère, de contrôler les théologiens. On assiste aujourd'hui à l'intérieur de l'Église catholique de la révolte des serviteurs contre le magistère. J'ai beaucoup, pas tous, heureusement, il y a encore beaucoup de très bons théologiens. Quelques-uns, j'ai vu ça en faculté de théologie en disant c'est insupportable, nous théologiens, d'être jugé par des non-théologiens qui sont les évêques qui sont le magistère de Rome. Nous devrions être jugés par des pères, c'est-à-dire par d'autres théologiens admis dans les facultés théologiques, aussi bien catholiques que protestantes. C'est un phénomène très nouveau à l'intérieur de l'Église catholique. Et on doit être attentif à ça. On ne peut pas aujourd'hui, si on fait une session de théologie, ne pas dire sa couleur. Autrement, tous les petits poissons rouges deviendront blancs. On doit dire que on est théologien de l'Église catholique. Et qu'on accepte que le magistère est pour nous une autorité. Le magistère, c'est l'enseignement du pape actuel. C'est l'enseignement de toute la tradition. C'est l'enseignement des saints qui font partie de la tradition. Selon le Concile de Trente, selon Vatican II, l'autorité dans l'Église, c'est l'Écriture sainte, tous les livres canoniques, c'est la Bible, selon son interprétation elle l'enveloppe, comme la nuée qui enveloppe le Fils de l'homme quand il doit revenir sur la terre. C'est l'Esprit Saint à travers le cœur des saints et des théologiens serviteurs fidèles. Si le théologien est serviteur de l'Église, le théologien doit avoir les trois grandes qualités du serviteur: un excellent examen de conscience. Le serviteur est fidèle, le serviteur est doux, le serviteur est pauvre. Retenez bien ça. Ça, c'est l'Écriture, c'est pas moi comme théologien. C'est dans l'Écriture. C'est l'Écriture qui, elle-même, nous donne les qualités du serviteur. Et ça, je crois que c'est capital. Un serviteur, un théologien qui n'est pas fidèle, n'est plus un serviteur, n'est plus un théologien. Il se condamne lui-même. Un serviteur doux, c'est celui qui ne se met pas en colère dès qu'on lui dit quelque chose pour lui dire: attention, soyez fidèle. Et un serviteur qui ferait son œuvre et non pas l'œuvre de l'Église ne serait plus pauvre, il ne serait plus serviteur, il prendrait la place du maître. La dialectique du serviteur et du maître de Hegel à ce point de vue-là est très intéressante. Une tentation permanente du serviteur de prendre la place du maître. Et c'est la grande tentation des théologiens d'aujourd'hui. Ils en ont assez d'être serviteurs. Ils veulent prendre la place du magistère. C'est important de comprendre ça aujourd'hui. C'est même capital. Si on ne comprend pas ça, je crois qu'on se met déjà en dehors de la tradition. Le théologien est serviteur. Et l'exégète est serviteur du serviteur, comme dit Perfeuillet, un bon exégète. Et serviteur du théologien par rapport à la parole de Dieu. Et vous comprenez bien que le serviteur aide, conseille, mais ne détermine pas. Qu'est-ce qui détermine où est la vérité? C'est pas le théologien, c'est pas l'exégète. La vérité au niveau de la foi. Donc, l'ultime interprétation de l'Écriture, ce n'est ni le théologien, ni l'exégète, c'est l'Église. Je vous donne un petit exemple pour que vous compreniez bien. Un exemple vécu. Je vous donne que des exemples qui sont vécus. Parce que les exemples, c'est toujours quelque chose qu'on a vécu. Je prêchais à Châteauneuf de Calors la retraite des prêtres il y a quelques années. Avant, je crois, il y a 20 ans. Ça reste toujours actuel. Encore plus actuel maintenant qu'à ce moment-là. Et je rappelais toujours au début de la retraite qu'est-ce que c'était qu'une retraite et comment nous nourrir de la parole de Dieu. On se nourrit de la parole de Dieu en retraite et en session théologique. Mais pas de la même façon. Et c'est toujours important pour qu'il n'y ait pas d'équivoque. Mais c'est toujours la parole de Dieu à laquelle on revient. Et je rappelais que dans une retraite, la chose essentielle, c'était d'adorer. Et je reprenais ce texte de Saint Jean dans le dialogue de Jésus avec la Samaritaine. Il faut des adorateurs en esprit et en vérité parce que Dieu est esprit. immédiatement après la conférence, un de ces prêtres, je ne connaissais pas, monte chez moi, furieux. Père, vous avez dit quelque chose que vous n'avez pas le droit de dire. Je dis quoi? Vous avez dit que Jésus disait qu'il fallait des adorateurs en esprit et en vérité. Vous n'avez pas le droit de dire ça. Je dis, tiens, je n'ai pas le droit de dire ça. Heureusement que j'avais lu juste avant la conférence, dans la documentation catholique, un article de Paul VI disant, comme dit le divin maître, il faut des adorateurs en esprit et en vérité. Je suis avec Paul VI. Il dit ça dans la documentation catholique de ce mois. Alors il hausse ses épaules. Il dit, mais Paul VI n'est pas un exégète. Il est pape. Alors j'ai dit, oui, j'aurais dû dire, Saint Jean, dans son évangile, dit que Jésus dit qu'il faut des adorateurs en esprit et en vérité. Oui, est-ce que vous auriez dû dire? Je m'excuse, mais l'Église ne le comprend pas de ça du tout comme ça. Et toute l'interprétation des pères de l'Église, l'interprétation de Saint Thomas, l'interprétation du pape actuel, c'est que si Saint Jean dit, Jésus dit, j'ai le droit de dire Jésus dit. Alors comme vous voyez, il ne comprenait pas. Je suis passé du régime d'accusé au régime de celui qui interroge. C'est toujours ce qu'il faut faire. On change comme ça de situation. Je dis, monsieur l'abbé, je ne vous connais pas. Mais je vous prends très au sérieux. Parce que je vois que c'est quand même quelque chose de sérieux pour vous. J'aimerais savoir quelle est la norme de votre foi. Je suis sûr, étant donné votre âge, que vous enseignez. Si vous enseignez, vous devez communiquer une recherche de vérité. Vous n'avez pas le droit d'enseigner des erreurs comme étant la vérité. Vous n'avez pas le droit. À ce moment-là, vous faites fausse route. Quelle est la norme de vérité pour vous, au point de vue de la foi? Il est resté dans le silence. Il n'a pas osé. Je comprends très bien que vous n'osez pas parler, parce que vous dites, je vais me tromper. Alors c'est pour ça que vous taisez. Entre nous, je ne suis pas là pour vous accuser. Je suis là pour être votre serviteur. Vous aider. Si je prêche la retraite, c'est pour vous aider. Et comme vous m'accusez faussement, je relève. Parce que je n'aime pas d'être accusé faussement. J'ai parfaitement le droit de dire, Jésus dit qu'il faut des adorateurs en esprit et en vérité. C'est ma foi chrétienne et catholique qui me permet de dire ça. Parce que, comprenez bien, la norme de ma foi, ce ne sont pas les conclusions des exégètes d'aujourd'hui. Si je prenais comme norme de ma foi les conclusions des exégètes d'aujourd'hui, j'aurais déjà changé 3-4 fois la norme de ma foi. La norme de votre foi, c'est l'enseignement actuel de l'Église, si vous êtes catholique. Et ceci, c'est très important. Vous voyez, si on est serviteur théologien, on est théologien d'Église. Et c'est pour ça que l'Église a le droit de dire, vous n'êtes plus théologien. On est serviteur. Si on roule contrat avec l'Église, c'est-à-dire si on enseigne des choses que l'Église ne veut pas qu'on enseigne, l'Église a le droit de dire, vous n'êtes plus intéressé. prochaine église catholique. Vous êtes un chercheur. Oh, très bien, cherchez. Vous êtes un chercheur. On a le droit d'être un chercheur. On a le droit d'être un philosophe qui cherche. On a le droit d'être un chercheur dans l'église catholique comme théologien. Mais on dit à ce moment-là qu'on cherche. On n'enseigne pas une vérité qui serait en opposition vis-à-vis de l'Église. Mais je crois que c'est très important pour nous, cela, de comprendre ce que c'est que la théologie à la différence de la philosophie. C'est une chose qui me frappe beaucoup, ça. Toute ma vie, j'ai enseigné la philosophie. Et j'enseigne encore maintenant. Je crois savoir un peu ce que c'est que la philosophie. Je crois. Parce que quand on l'a enseigné longuement, on devient le plus vieux professeur de philosophie de France, d'Europe, j'en suis persuadé. Et vous êtes d'Amérique. Et vous êtes du monde. J'avais dit au Saint-Père, je dois quitter Fribourg. Et la limite d'âge, c'était 70 ans. Aujourd'hui, ce n'est plus ça. 65, 60. Le Saint-Père a haussé les épaules. Limite d'âge pour un théologien. Ça n'existe pas. Il dit, oui, mais je suis fonctionnaire helvétique. Là, il y a une limite d'âge. Le Saint-Père dit, oui. Là, je comprends. Il y a une limite d'âge comme fonctionnaire helvétique. Mais heureusement, la philosophie n'est pas mesurée par être fonctionnaire helvétique. J'ai dit, oui, heureusement, ce n'est pas le fonctionnaire helvétique qui mesure la vérité. C'était un petit dialogue sympathique avec le pape. C'est vrai. Beaucoup arrêtent leur enseignement philosophique. Mais en fait, ils sont à la retraite. Le Seigneur a permis qu'étant à la retraite, j'ai un autre public, plus sympathique du reste, qui est le public de ceux qui font de la philosophie librement. Non pas pour acquérir un diplôme. Rien n'est plus désagréable pour un professeur de philosophie que d'enseigner la philosophie devant des étudiants qui n'ont qu'un seul désir, c'est d'acquérir des diplômes et qui ne cherchent absolument pas la vérité. Si on enseigne la philosophie, on recherche la vérité. Si on enseigne la théologie, on recherche la vérité. J'allais dire, autrement, on n'a pas le droit d'enseigner la philosophie. On n'a pas le droit d'enseigner la théologie. Alors vous allez me dire comme Pilate, qu'est-ce que c'est que la vérité? C'est vrai, c'est pas commode. Dans le monde d'aujourd'hui. Mais on peut quand même préciser que la recherche de la vérité au niveau philosophique, c'est d'essayer de comprendre ce qu'est l'homme. C'est l'homme qui est la mesure de la vérité pour le philosophe. Parce que la philosophie, c'est d'être au service de l'homme pour l'aider à découvrir ce qu'est sa finalité. La philosophie n'est pas une idéologie. L'idéologie n'est pas au service de l'homme. Elle veut être au-dessus de l'homme et mesurer l'homme et faire de l'homme des serviteurs des idéologies. C'est le grand drame de notre monde d'aujourd'hui. C'est que l'idéologie a pris le pas sur la philosophie. Ça, je crois que c'est très important aussi de comprendre ça. Qu'est-ce que c'est qu'une idéologie? Qu'est-ce que c'est qu'une philosophie? La vérité au niveau biologique, si je suis chrétien, c'est le Christ. Jésus est la vérité. Ce n'est pas l'homme, c'est Dieu qui s'est fait homme pour moi. Et avec Jésus, la vérité, c'est le Père. Jésus est venu nous révéler le Père. Donc c'est Dieu. Tout ce que je peux dire en théologien qui est conforme à la révélation que Dieu a donnée de lui-même et de son envoyé, le Christ, est légitime dans une recherche théologique. Tout ce qui est conforme à Dieu qui s'est révélé et au Christ qui est l'envoyé. C'est le mystère de Dieu qui, pour le théologien, est la mesure de toutes les choses. Il recherche ce qu'est l'homme dans la lumière de Dieu. Je crois qu'il faut bien comprendre cela. Pour qu'il n'y ait pas d'équivoque entre nous. Si vous avez des objections là-dessus, vous les direz. Parce que c'est capital, ça. Le théologien regarde d'abord Dieu. Selon toute la tradition. Évidemment, si vous êtes hegélien, vous ne serez pas entièrement d'accord. Si vous êtes dans tel ou tel philosophe, théologien moderne, Hans Kuhn, vous ne serez pas entièrement d'accord. Ça, je suis d'accord. On pourra dire, mais écoutez-moi, je n'ai pas cette philosophie-là, c'est tout. Et je vous dis que ce n'est pas la théologie d'Église catholique. Et ça, je peux vous le montrer. L'Église respecte parfaitement et entièrement toute recherche de la vérité au niveau scientifique, au niveau philosophique, au niveau théologique, au niveau mystique. L'Église respecte entièrement toute recherche de vérité. Elle n'a pas le droit de dire l'inverse. Et ça, il faut toujours le savoir et le comprendre. Il ne s'agit pas seulement de le répéter et de le comprendre. Pourquoi? Parce que l'Église aime l'image de Dieu qui est en nous. Et l'image de Dieu qui est en nous implique l'intelligence, la capacité d'aimer et le dominium, les trois grands aspects de l'image de Dieu qui sont en nous et qui sont dès le début de l'Écriture. Dieu a créé l'homme. Et donc, au plan théologique, je ne peux connaître parfaitement ce que c'est que l'homme que dans la lumière de Dieu, puisque l'homme est image de Dieu. L'image ne se comprend que relativement à son modèle. Donc, c'est la révélation elle-même qui me montre ce que c'est que la théologie. Je regarde Dieu, et dans la lumière de Dieu, je regarde. L'imago Dei implique trois dimensions. L'intelligence, recherche de la vérité. L'amour, la volonté, capacité d'aimer. Et la capacité que j'ai de transformer l'univers, le dominium. Ceci aussi est révélé. Et les pères de l'Église ont repris ça, et saint Thomas a repris ça, et Bellarmine a repris ça. Ce n'est que les modernes, certains modernes, qui veulent découvrir l'image de Dieu à partir de ma propre expérience. En faisant ça, ils font œuvre de philosophes et non pas de théologiens. Je crois que là nous sommes tous d'accord. Si nous ne sommes pas tous d'accord, vous le direz. Mais on ne va pas discuter ça sans cet eau. Je voudrais voir tout de suite avec vous que la théologie peut avoir des orientations très différentes. Quand on est en face d'un génie, comme Thomas d'Aquin, le très grand danger, c'est que on est séduit par un génie. Et on tourne autour sans pénétrer jusqu'au bout dans son intelligence. Et on voit dans l'histoire de l'Église que, à partir de saint Thomas, on voit quantité petits théologiens, beaucoup moins grands, qui sont séduits et qui tournent autour. Et il y a eu, par le fait même, une sorte de répétition terrible, ce qu'on a appelé la scolastique. Et la scolastique, elle s'est détruite elle-même progressivement. Elle s'est amenuisée. Elle s'est diminuée. À la place de rechercher la vérité, on a commenté saint Thomas. La scolastique est tombée dans le défaut des commentateurs. Être commentateur, c'est très bien, mais c'est ce qu'on appelle en art l'école. On a tous fait cette petite expérience quand on visite des musées. On voit un grand. Et à la suite du grand, des quantités de petits qui copient. C'est l'école. Il y a l'école. Alors, la scolastique, c'est l'école. À la place de rechercher la vérité, on essaie d'imiter, de copier le plus fidèlement possible et découvrir quelque chose que les autres commentateurs n'ont pas dit. On devient spécialiste de l'étoile d'araignée en théologie. On devient spécialiste de quelque chose de très très particulier. On va étudier une chose et on ramènera toute la théologie à ça. Ça devient cancéreux. Ça devient quelque chose qui n'est plus la théologie. La théologie est sagesse. Et donc elle respire. Et elle essaie de respirer le plus haut possible. En regardant Dieu. Le théologien est un contemplatif. Il n'est pas un critique en premier lieu. Il est un contemplatif. Il recherche la vérité et il essaie d'aimer Dieu. Contemplatif du Christ. Il est un amant du Christ. C'est ça, je crois, qui explique comment, à partir de saint Thomas, il y a eu des quantités de disciples de saint Thomas, de disciples de Don Scott, de disciples de tel ou tel, d'Occam, de disciples de saint Bonaventure. Ce sont des disciples, l'école. Jusqu'au jour où on s'est aperçu que c'était un peu fiction. Là, on a ouvert les fenêtres. Et on s'est dit, la théologie, c'est mettre son intelligence au service de la parole de Dieu. Mais la philosophie s'est développée en dehors de l'Église. C'est vrai. Elle s'est développée avec Descartes. Elle s'est développée avec Kant. Elle s'est développée avec Hegel. Elle s'est développée à travers toutes les idéologies athées. J'ai lu un article, je ne dis pas l'auteur, qui disait tous les grands génies ont fait leur synthèse philosophique en dehors de l'Église. Il faut, avec Vatican II, récupérer tous ces génies et devenir disciple de Hegel, disciple de Marx, disciple de Freud, disciple de Nietzsche. Je n'exagère rien, tout ça était présent dans une semaine religieuse. J'aurais dû la garder. Je prêchais une retraite chez des excellentes religieuses contemplatives qui me passaient pieusement la semaine religieuse. Et j'ai lu cet article parce que je ne lis pas beaucoup la semaine religieuse. Pas beaucoup. Non, je devrais la lire peut-être plus pour découvrir ça. J'aurais dû empocher cette semaine religieuse et la garder pieusement. Vous voyez, peut-on mettre au service de la vérité des erreurs? A-t-on le droit d'unir, de faire coopérer à la foi des erreurs? Le théologien est responsable de cela. L'Église lui demande ce service. Être une intelligence qui cherche la vérité au service de la foi. Mais si je suis en présence d'une intelligence qui ne recherche plus la vérité au service de la foi, est-ce que j'ai le droit de faire? Est-ce que je ne peux pas empoisonner ma théologie? Je vous pose la question. Question très importante. Mettre au service de la foi, Nietzsche, Hegel, Marx, est-ce que ce n'est pas nécessairement faire une théologie qui sera inacceptable par l'Église? C'est ce qui s'est passé et c'est ce qui se passe. Un théologien, un jeune théologien qui faisait une licence, un doctorat, à l'égard d'un théologien d'aujourd'hui. Il est mort il y a très peu de temps. Donc il vivait à ce moment-là. Un théologien très important au Concile. Il lui a écrit en disant: je fais une thèse sur vous, ça m'intéresse beaucoup votre pensée. Je voudrais savoir quelle philosophie vous mettez au service de la foi et de la parole de Dieu, puisque vous faites une théologie. Il a répondu: aucune philosophie. L'autre a écrit: mais est-ce que vous cherchez la vérité? Non. J'essaie de faire une théologie qui soit compréhensible par le monde d'aujourd'hui. Or, le monde d'aujourd'hui ne cherche plus la vérité, donc je ne cherche plus la vérité. J'essaie d'être sincère. C'est tout. Quand même assez extraordinaire. Il a demandé s'il avait le droit de mettre cette lettre au début de sa thèse. Évidemment, l'autre a dit non. Je comprends. Le théologien doit chercher d'être abordable. C'est bien évident. Compréhensible, c'est bien évident. Mais il doit chercher la vérité. Autrement, il n'est plus un serviteur fidèle. Il peut être un serviteur très habile, très doux, ne heurter personne, et que tout le monde l'accepte, et qu'il soit traduit tout de suite et qu'il écrit en 15 langues. Très doux, très doux. Mais il ne cherche plus la vérité. Il fait son œuvre. Vous voyez, aujourd'hui, où tout chrétien doit être théologien, C'est ça l'éclatement de l'Église à partir du Vatican II. Tout chrétien, une mère de famille, doit enseigner la catéchèse. C'est comme ça qu'on la recrute. Enseigner la catéchèse exige quand même un minimum de théologie. Tout chrétien doit faire de la théologie. C'est pour ça que les sessions théologiques, on est nombreux. Plus qu'en philosophie. Il y a un phénomène extraordinaire, l'éclatement de l'Église dans la charité fraternelle. Il faut que tous, vous pouvez témoigner de votre foi. Et témoigner de votre foi, c'est d'être intelligent pour sa foi. La philosophie, ce n'est pas autre chose que d'être intelligent dans la recherche de la vérité. Ce n'est pas autre chose que ça. Et c'est quand on est en face de philistins qui ne cherchent pas la vérité, de pouvoir leur dire, ah, ce que vous dites n'est pas vrai. Je vous coince. C'est pas humain, c'est pas divin. Et c'est peut-être même pas sincère pour vous. Il faut savoir répondre. Je me souviens, je donne encore un petit exemple. À Fribourg, j'avais beaucoup de contacts, ce que je n'ai plus, avec les secrétaires des syndicats chrétiens. Ça me semble curieux, hein? C'est eux qui sont venus me chercher. Parce que je faisais un cours de philosophie dite populaire, le soir, que j'aimais beaucoup. J'aimais mieux que mon cours officiel. C'était beaucoup plus drôle. D'abord parce que j'avais des gens qui venaient de partout. J'avais des objecteurs qui venaient. C'était extrêmement vivant. Philosophie populaire, voyez, c'est intéressant. C'est-à-dire philosophie pour les hommes qui veulent être intelligents. Qui veulent chercher à être intelligents. Philosophie populaire. Alors on avait évidemment des objectants qui venaient un peu de partout. Et parmi eux, il y avait des secrétaires des syndicats chrétiens. Et les syndicats chrétiens, c'est catholiques et calvinistes, protestants. Ils sont venus me chercher en me disant, est-ce que vous ne pourriez pas nous faire un peu de philosophie? J'ai dit, pourquoi? Non. C'est très simple. Nos collègues, secrétaires des syndicats socialistes, vont se former à Moscou. C'est des Suisses. Ils vont se former à Moscou. Ils reviennent avec une philosophie dialectique, marxiste. Et nous sommes incapables de montrer que c'est faux. Nous les écoutons. Nous les écoutons. Oui, c'est intéressant ce qu'ils disent. Ça va pas être très juste. Alors, nous voudrions, parce qu'on sait que tous les problèmes humains vous intéressent, qu'on puisse vous poser toutes nos colles. Et que vous puissiez répondre à toutes ces colles. Et que vous puissiez nous montrer qu'est-ce que c'est qu'une vraie philosophie. Une recherche de vérité pour l'homme. Puisque c'est ce que vous dites au cours de philosophie populaire. Je dis c'est vrai, c'est vrai. Pour moi, c'est la seule chose qui m'intéresse. Ça ne m'intéresse pas du tout d'intéresser dans une université où on a des étudiants qui viennent là uniquement pour avoir des diplômes et qui s'en fichent de la vérité. Tentez-vous, vous cherchez la vérité. Et vous êtes en face d'un monde qui ne recherche plus la vérité. Parce que c'est ça la philosophie. Et c'est ça la théologie. On essaie de découvrir la vérité au milieu d'une quantité d'erreurs. Le petit chemin, la crête, parce que c'est une crête, mais une crête qui s'amenuise. Au Moyen-Âge, c'était une autoroute. Les autoroutes étaient la théologie. Aujourd'hui, les autoroutes, c'est économique. Et la théologie, c'est la crête extrêmement amenuisée, où il passe un à un. Parce qu'il n'y en a plus beaucoup qui cherchent la vérité. C'est vrai, compte-goutte. on doit mettre notre intelligence qui recherche la vérité au service de la foi. Saint Thomas fait ça admirablement. Après lui, il était trop grand. Il était trop grand. Et il reste trop grand. Quand quelqu'un n'aime pas Saint Thomas, je lui demande tout de suite, l'avez-vous lu ? La plupart du temps, ils me disent non. Alors vous n'avez pas le droit de parler de lui. S'ils me disent qu'ils l'ont lu, vous l'avez sans doute mal compris. Parce que vous êtes moins intelligent et moins croyant. C'est pas commode d'être aussi intelligent que Thomas d'Aquin et d'être aussi croyant que Thomas d'Aquin. C'est pas commode du tout. Alors, tranquillisez-vous, hein. Je ne veux pas faire du Saint-Thomas avec vous. Parce que je crois que ce soir, vous diriez, ma mère, on est éreinté, on n'y comprend rien. On essaie de comprendre, mais on n'y comprend rien du tout. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? La théologie a perdu sa vigueur. Et elle est partie dans tous les sens. Et je crois qu'on assiste aujourd'hui à cette exigence d'une recherche de vérité. D'être plus proche de l'homme. Une recherche de vérité qui veut tout prendre dans la révélation. Parce que la révélation a diverses dimensions. La parole de Dieu a diverses dimensions. Si je regarde la parole de Dieu, puisque le théologien part de la parole de Dieu a des dimensions multiples et diverses. La parole de Dieu est un enseignement. Thomas d'Aquin, qui cherche avant tout l'enseignement. La parole de Dieu, elle implique une histoire. C'est vrai. Elle est donnée à travers une histoire. L'Ancien Testament. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir ? On va voir théologie biblique. La théologie biblique existe. Qu'est-ce que c'est que la théologie biblique ? C'est d'essayer de comprendre comment progressivement on aboutit à la révélation parfaite. La révélation parfaite, où est-ce que vous la trouvez ? On part de l'histoire, l'imparfait vers le parfait. Le parfait, l'Apocalypse, l'Évangile de Jean. L'Apocalypse, c'est la révélation. Vous n'allez pas dire que la Genèse, c'est la révélation. C'est une révélation imparfaite. Même Isaïe, c'est une révélation imparfaite. La révélation parfaite, l'Apocalypse et l'Évangile de Jean. Et entre deux, la première épître. Il y a trois livres qui nous donnent la révélation parfaite. Donc, la théologie biblique vers la révélation parfaite. Jésus, qui est au terme, est le fondateur de l'Église. L'Église garde la mission du Christ. La mission de Jésus demeure. L'Église n'a pas d'autre mission que la mission du Christ. Je ne peux pas dire qu'Israël avait la même mission que le Christ. Je ne peux pas dire que le peuple juif avait la même mission que le Christ. Je peux le dire de l'Église. Je peux dire que le pape a la même mission que Christ. l'enseignement actuel de l'Église. Donc, l'Église, il y a une théologie de l'Église, oui. Il y a une théologie de l'Église. C'est la théologie du vivant. L'Église, c'est le vivant. De la théologie. J'en mets une dernière. C'est la parole de Dieu n'est pas seulement la parole. Jésus affirme « Je suis ». Et là, il se fait l'écho de Dieu face à Moïse. « Je suis celui qui est ». Le « Je suis » c'est la personne. Quand je vous demande qui êtes-vous, je suis Clément, je suis Jacques, je suis Séraphin, je suis Siloane, je suis, c'est la personne. Au-delà de la parole, il y a la personne. Ça. Faites la théologie de la personne. Au-delà de la parole liée à la personne, il y a les gestes. Vous ne pouvez pas nier ça. Et la personne réclame la fidélité. Personne qui est fidèle, c'est pas une parole. Personne n'est fidèle parce qu'une personne, elle fait des alliances. Jésus fait une alliance avec l'Église. Une alliance d'époux et d'épouses. Une alliance d'amour. Et Jésus réclame la fidélité. Et dans l'Église, il y a deux types de fidélité. Les moines, les religieux, les religieuses et le mariage. Tous les baptisés. Une alliance de fidélité. Le chrétien est un être fidèle. C'est la définition du chrétien dans le monde d'aujourd'hui. Il est fidèle. Fidèle à une personne. Suivre l'agneau partout où il va. La fidélité. C'est lié à la personne. Ceci se réalise dans la lutte. Dans les luttes. Une fidélité qui se réalise dans la joie et la paix est facile. Je ne sais jamais si un ami est un véritable ami, car il est l'ami de ma gloire. Quand j'étais dans un trou noir, en dessous du meuble, aucun ami. J'étais seul, seul. Dans la gloire, toutes les mouches arrivent. Et se collent. La gloire. Je ne suis sûr de la fidélité qu'au moment de l'épreuve. Vous voyez, on touche le sujet que nous allons voir. Dans l'Écriture, on nous montre les luttes à cause de la fidélité et pour la fidélité. Quelqu'un qui n'a fait aucune alliance de fidélité va comme je te pousse. Il n'a aucune orientation de vie, aucune. Aucune recherche de vérité est toujours adaptée au bon moment. Il n'y a pas de fidélité, il n'y a pas de ligne nette dans sa vie. Donc il n'y a pas de lutte. Les luttes et les tentations, c'est à ce niveau-là qu'elles se situent. psychologie de la personne. C'est ce qu'on appellera théologie mystique. C'est la théologie de l'amour. Parce que la personne ne peut se dévoiler qu'à travers l'amour. Donc vous voyez, si je suis un tout petit peu lucide, première théologie, Thomas d'Aquin. Deuxième théologie, deuxième modalité de la théologie. Troisième modalité, quatrième. Voilà les quatre grandes modalités de la théologie. Et tout ça à cause de la parole de Dieu. Si vous en supprimez une, hein, vous diminuez quelque chose du mystère de la parole de Dieu. Vous supprimez la théologie biblique. C'est du passé, ça ne m'intéresse pas. Donc, vous supprimez la théologie biblique. Une dimension. La parole de Dieu m'est donnée dans l'histoire du peuple d'Israël. Vous supprimez l'Église. La parole de Dieu est gardée dans l'Église. Vous supprimez la première, l'enseignement, ce qu'on supprime aujourd'hui tout le temps. Vous ne voulez plus parler de saint Thomas. Ah, vous supprimez l'axe. L'intelligibilité profonde de la parole de Dieu. La recherche de la vérité. Vous supprimez la dernière. Vous risquez d'assécher la théologie. Et vous ramenez la théologie à de la logique, à des commentaires extrêmement subtils. C'est très bien ces commentaires subtils. Si vous avez le temps, amusez-vous. Je ne demande pas mieux. Il y a des gens qui s'amusent à faire du tric-tac. Il y a des gens qui s'amusent au domino. Il y a des gens qui s'amusent à des rébus. Très bien, tout ça existe en théologie. Toutes les subtilités des théologiens. Alors, amusez-vous. Quand le Christ arrivera dans sa gloire, vous verrez des théologiens très subtils se demander si il y a une virgule ou un point dans l'écriture à tel endroit. Et le Christ reviendra dans sa gloire. Ils auront la tête tournée sur les manuscrits. Vous scrutez l'écriture, si Jésus dit ça. Vous scrutez l'écriture et vous croyez trouver la vie. Non. C'est très bien, il faut ces savants-là. Je ne les condamne pas du tout. Si on a le temps. Si on a le temps. Aujourd'hui, est-ce qu'on a encore le temps? On est bousculé, bousculé, bousculé. C'est vrai, on est bousculé de toute façon. Affolante. Pourquoi est-ce qu'on a un rythme économique qui n'est plus humain? Le rythme économique voulu par les hommes, fondé par les hommes. Ce rythme économique est mondial. L'unité du monde est économique. Tour de Babel. Et ce rythme est au rythme de la technique, de la science, de l'ordinateur. Quelqu'un m'a raconté une très bonne histoire, parce que pour pas vous fatiguer trop, très bonne histoire. C'est quelqu'un de très sérieux qui est secrétaire de l'Institut de la vie, qui réunit donc tous les grands savants du monde tous les ans. Une année, il a demandé au fondateur de l'ordinateur, un Américain, de venir parler d'ordinateur. Ce fondateur, dont j'ai oublié le nom, est arrivé dans un habit de grand prêtre. Pas catholique, mais l'Inde. Absolument. Un habit pontifical. Puis il a parlé d'ordinateur. C'est une chose extraordinaire. Change la face du monde. c'est vrai, qui change la face du monde. Après la conférence, on peut lui poser des questions. Alors il y a eu un malin, toujours, c'était des savants, hein, donc un public très très sélect, a posé la question. Il n'a pas dit grand près de l'ordinateur, mais il a salué par son nom. C'est très très intéressant tout ce que vous dites, mais si c'est l'ordinateur qui maintenant gouverne le monde, on pourrait peut-être l'interroger. Est-ce qu'il pourrait nous dire quand ce monde dans lequel on est va se terminer? C'est une grave question, ça. Quand ce monde dans lequel on est va-t-il se terminer? Il n'avait pas prévu ça. Alors il a demandé un quart d'heure de silence pour répondre à cette question difficile. Il y a eu un quart d'heure de silence. Comme dans l'Apocalypse. Mais l'Apocalypse, c'est une demi-heure. C'est encore plus grave. Un quart d'heure de silence. Tout le monde a cherché. Au bout d'un quart d'heure, il a dit, l'ordinateur ne peut pas répondre. Ce que je crois, vous aurez dit tout de suite. Mais lui, c'est des viscères de l'ordinateur qui devait répondre. Donc il devait regarder toutes les possibilités. L'ordinateur ne peut pas répondre. On lui a dit pourquoi. Pourquoi ne peut-il pas répondre? C'est intéressant. Ah, il ne peut pas répondre. Parce qu'il ne répond qu'au niveau des interrogations qu'on a dit et de tous les possibles. Du monde, c'est une question de fait. Hein. C'est pas une possibilité. La possibilité, tout le monde le sait. Hein. Notre monde peut s'arrêter. Il suffit très peu de choses et le soleil peut nous griller assez vite. On serait tous réduits à une petite grillade. C'est très très vite fait, ça. Et puis la mer peut monter tout d'un coup, redémarrer. Alors il y aurait que celui qui serait au sommet de l'Himalaya. Il monte encore. Oui, c'est très important aujourd'hui de pouvoir comprendre que la théologie repose toujours sur la parole de Dieu et sur ses diverses modalités. Et il y a une modalité très importante de la théologie qui est justement ce que nous allons essayer de faire ensemble. Les tentations. Les épreuves. Il n'y a pas de chapitre dans saint Thomas sur les tentations. Je n'ai vu aucune partie de théologie parler des tentations. C'est pourtant important quand même dans notre vie. Et alors on verra comment les tentations vont nous éclairer sur la psychologie. Et il fallait que je fasse tout ça pour que vous compreniez la partie que nous regardons. Les luttes, les tentations. Tout ça est présupposé. Je ne peux pas parler d'une partie sans regarder le tout. Alors, je ne vous demande pas de connaître tout ça, c'est évident. On entre en théologie par n'importe quelle porte, parce que c'est une sagesse. La sagesse joue, la science ne joue pas. On n'entre pas en science par n'importe quelle porte, il y a une méthode. La sagesse n'a pas de méthode. Que la sagesse regarde l'homme. Et la sagesse théologique regarde le Fils de Dieu qui est en nous. Vous êtes des croyants. Et le Fils de Dieu qui est en nous regarde n'importe quoi dans l'Écriture. On ne vous dit pas, ah, vous n'avez pas le droit de lire éclairs, vous aurez du tonnerre, vous aurez du bruit. Entrez par là, pourquoi pas. Ah non, moi j'aime bien le ciel bleu. Ah, le ciel tout à fait bleu, merveilleusement bleu. Ah, peut-être théologie mystique. Mais dans la théologie mystique, vous rencontrerez des luttes. Le ciel bleu n'est pas fait pour la terre, il est fait pour le ciel. Bien, vous trouverez l'enseignement, c'est calme, ça demande, c'est calme, paisible. C'est lumineux, c'est la lumière qui domine. J'aime une théologie vivante. Regardez l'Église. J'aime l'histoire. Passer de l'imparfait au parfait. Regardez la théologie biblique. Il y a beaucoup de demeures, hein, pour le croyant. Il y a toutes ces demeures. C'est bon de voir ça. Vous voyez, et de voir que quand on lit saint Thomas, on est à ce niveau-là. Un niveau très intéressant, très difficile, qui demeure, mais qui demeure pour ceux qui se consacrent entièrement à la théologie. Un théologien qui enseigne la théologie et qui ne connaît pas saint Thomas, c'est dommage. On ne peut pas faire de la sagesse une spécialisation. La sagesse n'est jamais spécialisation. La sagesse regarde la finalité. Alors, des détails pratiques. Hein, je n'ai pas donné au début pour ne pas vous fatiguer. Des détails pratiques. Donc, nous aurons tous les matins la conférence après la messe. Vous avez donc un long moment le matin pour prier, méditer, travailler personnellement. Et peut-être discuter entre vous. Autant que possible. Hein. Ce n'est pas une retraite. Mais c'est une session théologique. C'est sérieux. Si vous pouvez assister à l'oraison du matin, venez. Si vous pouvez assister à l'autre, venez. C'est sûr, c'est mieux connaître. Vous voyez, il n'y a pas de prière du matin. C'est l'oraison. Ce sont les lots. Si vous devez dormir, parce que quelquefois on profite d'une session ou d'une retraite pour dormir, on ne peut pas dormir autrement. Alors dormez jusqu'au petit déjeuner. Personne ne vous dérangera. Vous avez remarqué, on sonne la cloche très doucement. Très doucement pour l'Angélus. On ne la sonne pas le matin, par miséricorde, pour les pauvres petits. Tous les lapins du quartier. On ne sonne pas la cloche. Parce que si vous êtes levé tôt, faites un tour dans le jardin, vous verrez des petits lapins. C'est un zoo ici. Il y a des petits lapins. Ils sont gentils, ils n'ont pas peur, on ne chasse pas. Alors, si on chasse d'une façon telle qu'on ne fait pas de bruit. Les lapins ne l'entendent pas. Là, c'est merveilleux. Donc, le matin, employez le temps. Perdez pas votre temps. Faut pas perdre votre temps. C'est très court, 5 jours. Conférence à l'heure après la messe, comme aujourd'hui. Conférence d'une heure, 1h15. Si vous êtes trop fatigué, dormez l'autre partie de la conférence. Mais ça me gêne pas. Je dis que vous n'êtes pas renflé. Mais ça m'est égal. Il y en a qui seront toujours réveillés. Alors, ceux qui sont fatigués, ceux qui ont l'oreille dure, comme j'ai pas de voix, se mettre là et puis demander des casques. J'espère que ça marche. J'espère. C'est la technique. Après la conférence, un temps libre. Puis alors, vous avez carrefour après le repas, en silence le repas. Parce que c'est un repas monastique. Nous avons la même table. Écoute la lecture qui pour vous on la fera intelligente, j'espère. Donc si elle n'est pas intelligente, ça prouve que on ne voulait pas vous fatiguer. À 15h, carrefour, vous êtes très nombreux, les carrefours sont libres. Alors sitôt cette conférence, on va se diviser. Tous ceux qui veulent assister au carrefour. Qu'est-ce que c'est que le carrefour? C'est poser ces questions. Tout ce qu'on n'a pas compris et qu'on veut comprendre. Quand vous suivez une conférence, vous notez tout ce que vous ne comprenez pas. Et vous notez aussi ce que vous comprenez. Et il y a deux registres. Le registre qu'on ne comprend pas, le registre qu'on comprend. Ce qu'on désire garder, ce qu'on laisse tomber. Alors, immédiatement après cette conférence, après avoir récité la prière, tous ceux qui n'assistent pas au carrefour quitteront la salle. Et on divisera les carrefours, trois ou quatre, avec un père qui sera avec 20, 30, 10, pour recevoir ou répondre aux questions. C'est très difficile après les conférences de dire 5 minutes d'arrêt, vous allez poser vos questions. Ça ne va pas. Il vaut mieux faire des carrefours. Vous serez plus homogène. Et puis alors, c'est des questions importantes sur lesquelles il faut revenir. Je les reprendrai dans la conférence qui suivra les carrefours. Le carrefour est à 15h, la conférence sera à 16h30. Il est évident qu'à la conférence qui suit, même ceux et celles qui n'ont pas été au carrefour peuvent venir. Les conférences sont pour tout le monde. Les carrefours sont pour ceux qui veulent y assister. C'est un supplément. Un supplément. C'est un goûter. Au chocolat et à la confiture. C'est un goûter. Les carrefours. Donc c'est pour ceux qui ont un estomac délicat. Conférence le soir.